Monsieur Adolphe Monod a été enlevé à l'église le 6 avril 1856, après une maladie de 2 années. 6 mois de repos et d'inaction forcée, puis 6 mois d'un ministère continué, malgré les progrès de la maladie. Enfin, près d'une année de souffrance, et de souffrance croissante toujours, il l'a dit lui-même, en intensité et en continuité. Ainsi se répartit cette dernière période de sa vie. Les discours qu'on va lire ont été prononcés dans l'automne et l'hiver 1855-1856, depuis le temps où il apprit que son mal était sans remède, jusqu'au jour où Dieu avait marqué le terme de sa prédication, en même temps que de ses souffrances. C'est vers la fin de septembre 1855 que M. Monod et sa famille connurent toute la gravité de sa maladie. Sans perdre encore ni l'espoir ni le désir de se relever et de voir le Seigneur accomplir en lui ce que l'art humain n'espérait plus, dès ce moment, il se prépara paisiblement à déloger, si telle était la volonté de Dieu, et sentit le besoin de se tenir encore plus près de lui. Aussi, quand un ami, son collègue dans le ministère, lui parla de la communion comme d'un moyen de grâce trop négligé et très puissant, et lui conseilla de s'en servir abondamment, il se rendit volontiers à ce conseil. Il résolut de prendre chaque dimanche la communion et d'admettre tour à tour à la partager les amis qui en exprimeraient le désir. Mais il voulut faire plus encore. 2 fois en quelques jours, il avait pu adresser à sa famille des exhortations d'une assez grande étendue. Encouragé par ce premier essai, il pensa que la communion hebdomadaire lui fournirait l'occasion d'exhorter chaque semaine un petit auditoire d'amis. Telle fut l'origine de ces réunions du dimanche. La première eut lieu le 14 octobre 1855 et elles se succédèrent sans interruption jusqu'au 30 mars 1856. Avec l'occasion de prêcher encore l'Évangile, M. Monod trouva celle de montrer l'esprit de largeur chrétienne dont il était animé. Cet esprit qui faisait de lui, non pas seulement l'homme de son Église, mais l'homme de l'Église fidèle tout entière. Tous ceux qui partageaient sa foi, quelle que fût d'ailleurs leur dénomination particulière, étaient pour lui des frères, et tour à tour des pasteurs des églises réformées, luthériennes, indépendantes, wesleyennes, présidèrent à cette fête de l'amour fraternel, au chevet du frère malade et mourant. Ainsi, à la douceur de travailler pour l'Évangile, il joignait la douceur de travailler pour cette Église de l'avenir que tous pressentent, comme il l'a dit lui-même, et au-devant de laquelle il voulait marcher. Le service se célébrait dans la chambre du malade. Une table placée auprès de son lit portait le pain et la coupe. Devant cette table prenait place le pasteur officiant. La famille de M. Monod, avec un petit nombre d'amis, en tout de 30 à 40 personnes, occupait autour de lui des places, toujours en trop petit nombre, quelques réserves que l'on dut imposer dans les admissions, en s'attachant surtout à faire varier le petit auditoire et à recevoir ainsi successivement tous ceux qui avaient demandé à venir. Une invocation, un chant, une prière, la lecture d'un chapitre de la Bible, puis la distribution des éléments, tel était l'ordre du service. Quand la scène était distribuée, M. Monod prenait la parole, et ce qu'il y avait alors dans son accent de paisible sérénité, d'amour profond et chrétien pour ceux qu'il exhortait, souvent d'énergie et de pénétrante éloquence, ceux qui l'entendirent en d'autres temps peuvent s'en faire quelque idée. Ceux-là seuls le peuvent dire ou sentir qu'ils l'ont entendu dans ces derniers jours. Le service, on l'a vu plus haut, était né des circonstances, sans être ni cherché ni prévu. Les paroles du pasteur malade n'avaient pas plus d'après. Souvent, ce n'était plus le prédicateur, c'était un frère souffrant et près de déloger qui donnait à ses frères des conseils tirés de sa propre expérience, avec une simplicité, une familiarité que le lecteur retrouvera tout entière. Mais souvent aussi, revenait la voix sonore, le tour vif et imprévu, l'accent rapide et entraînant d'autrefois. Privé d'une prédication qui était sa vie, il aimait cette prédication nouvelle, si réduite qu'elle fût, et par l'état du malade et par les difficultés des circonstances. Il parlait selon ses forces, toujours trop petites pour lui permettre une longue fatigue. Il ne pouvait, on le pense bien, supporter un long travail de préparation. Aussi, les premiers temps, il se contentait de méditer quelques moments sur les idées qu'il se proposait de développer. Ces idées lui étaient fournies par quelque expérience, quelques réflexions nouvelles que la semaine avait apportées. Ou bien il s'entretenait avec un de ceux qui l'entouraient sur le sujet qu'il pourrait choisir. Souvent aussi la souffrance se chargeait de le lui fournir, et il se plaisait alors à montrer comment le chrétien doit en user pour glorifier Dieu. Plus tard, voyant que sa vie se prolongeait, et que Dieu l'appelait à souffrir et à parler du sein de sa souffrance plus longtemps qu'il n'avait pensé, il voulut réunir les allocutions qui suivraient sous une forme commune. De là, deux séries de discours. Dans l'une, il donna sous le nom de « Regret d'un mourant » des conseils tirés de son expérience. Dans l'autre, il fit connaître les principaux résultats où cette expérience avait conduit sa foi. Il voulut alors se préparer avec plus de soin, dictant le samedi ou dans la nuit du samedi au dimanche des notes assez étendues, quelquefois presque autant que le discours lui-même, et se faisant relire ses notes peu de temps avant de parler. Mais il s'aperçut bientôt que cette méthode gênait sa liberté par la répugnance qu'il éprouvait à ne pas remplir exactement le cadre tracé d'avance et qu'elle lui donnait trop de fatigue en lui faisant souvent dépasser la mesure de ses forces pour suivre jusqu'au bout ses développements. Aussi, après 4 allocutions ainsi préparées, celles du mois de février, il revint pour les suivantes à son ancienne habitude. On s'étonnera sans doute que, souffrant jour et nuit des douleurs presque toujours vives et souvent extrêmes, M. Monod put soutenir la fatigue d'une réunion tenue auprès de son lit chaque dimanche pendant une heure entière et celle d'un discours, même de quelques pages, à composer et à prononcer. On a vu de quelle manière il se préparait à parler, dans les moments de liberté que la douleur lui laissait ou qu'il savait lui enlever. Et quant à la fatigue qu'il éprouvait à les prononcer, elle était grande assurément, encore que les organes de la parole eussent conservé une vigueur singulière et qu'on s'étonna de retrouver une voix aussi ferme dans ce corps brisé. L'effort d'attention qu'il fallait faire pour recueillir ses pensées et improviser des paroles, souvent au moment même où l'aiguillon de la souffrance se faisait le plus sentir. Cet effort ne pouvait manquer de réagir sur la douleur et de l'irriter encore. Mais Dieu lui dispensait chaque dimanche, comme chaque jour, la mesure de soulagement ou la mesure de patience et d'énergie qui lui était nécessaire. Quelquefois, la douleur était suspendue ou du moins adoucie. Quelquefois, il la dominait pour pouvoir parler. Souvent, les heures qui suivaient le service étaient des heures plus douloureuses, surtout dans les premiers temps. Il le savait, mais il s'y résignait volontiers. « Je souffre beaucoup », disait-il un dimanche soir. « Mais il faut qu'il en soit ainsi dans la nuit du dimanche au lundi. C'est un sacrifice que j'offre volontiers à Dieu. » Et encore, dans une prière, « S'il me faut chaque semaine gagner, par une douleur redoublée, le privilège d'annoncer ta parole, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Le 25 novembre, nous aimons à faire parler M. Monod lui-même pour mieux apprendre au lecteur avec quel sentiment il considérait sa prédication nouvelle. « J'ai beaucoup souffert ce matin. Il y avait lieu de craindre que je ne puisse pas parler. Eh bien, Dieu a suspendu ma douleur pendant une heure, tout exprès pour me permettre de le glorifier, et il m'a accordé la grâce d'exercer ce petit ministère qui m'est une si grande consolation. » Et enfin, le 2 mars, un mois avant sa mort, « Voici encore un dimanche que Dieu m'a permis d'adresser quelques mots à notre petite assemblée, malgré ma faiblesse croissante et dont mon accent rendait témoignage. Qu'il daigne me soutenir jusqu'à la fin et m'accorder, s'il est possible, car je n'ai garde de lui rien prescrire, la grâce de ne cesser de proclamer son nom que quand je cesserai de vivre. » Dieu l'a soutenu jusqu'à la fin. Dieu lui a fait la grâce dernière qu'il demandait. Depuis le dimanche 14 octobre, le service eut lieu chaque dimanche pendant près de 6 mois. Le 23 mars, jour de Pâques, il put prononcer son dernier discours sur la résurrection de Jésus-Christ, après une longue incertitude, il est vrai, et avec une si grande difficulté qu'il parut s'évanouir en articulant les derniers mots. Le 30 mars, bien que sa faiblesse eût rapidement augmenté les jours précédents, qu'il fût incapable de prendre presque aucune nourriture et que la difficulté à parler fût extrême, sachant à peine s'il pourrait se faire entendre, il recueillit le peu de force qu'il avait pour glorifier l'amour éternel et infini de Dieu, et finit par une prière d'action de grâce toute sa prédication sur la terre. Du 30 mars au 6 avril, le déclin fut encore beaucoup plus rapide. M. Monod n'avait plus la force de parler, même à sa famille, et l'on se demanda s'il fallait contremander la réunion convoquée pour le 6 avril. Mais ce jour-là, l'heure n'était pas venue que Dieu retirait à lui son serviteur, exauçant ainsi sa prière souvent répétée, « Que ma vie ne s'éteigne qu'avec mon ministère, et que mon ministère ne s'éteigne qu'avec ma vie. » Il nous reste à présenter au lecteur divers éclaircissements sur les discours contenus dans ce volume. On se demandera comment ils ont été reproduits, car on n'a pu voir que pas un ne fut rédigé d'avance par l'auteur. Dès l'origine, les enfants de M. Monod s'occupèrent de les recueillir. À l'aide de la mémoire et de notes fort étendues, où souvent presque rien ne manquait, on parvint à les reproduire avec une grande fidélité, fidélité qui allait croissant avec l'habitude. Ce travail se fit d'abord à l'insu même de M. Monod, et toujours sans qu'il y prît lui-même aucune part. Le seul de ses discours revus par lui est le 20e ayant pour titre « L'Écriture ». Il se le fit lire deux fois, le corrigea même avec soin, et y fit des changements assez considérables. Ajoutons qu'il s'est étonné dans cette occasion de trouver ses paroles aussi exactement reproduites. Ainsi, la rédaction n'était guère qu'un travail de plume. Copier les notes prises par diverses personnes, en les complétant les unes par les autres, ou à l'aide de la mémoire, à cela se réduisait tout le travail. Pour les derniers discours, on parvint à une fidélité à peu près parfaite. Les premiers furent reproduits aussi avec une assez grande exactitude. Le premier seul a été écrit de mémoire, mais ceux qui l'ont entendu n'y verront rien qu'ils ne reconnaissent, et chacun y retrouvera la manière de l'auteur. Pour tout le volume, on peut garantir, sinon d'avoir donné toutes les paroles de M. Monod, au moins de n'avoir donné que ses paroles. Et si dans ses exhortations familières, ainsi reproduites, il se rencontrait quelques négligences de langage, s'il manquait ici et là quelques phrases pour lier les idées ou les éclaircir, on a mieux aimé accepter un léger défaut que de prêter à l'auteur ce qui ne serait pas de lui. Quelques passages ont paru exiger un très léger changement qui en éclaircit le sens. Mais ces corrections d'un texte qui n'était pas, après tout, tracé de la main de l'auteur, sont en fort petit nombre. Parmi les titres des allocutions, deux ou trois seulement ont été donnés par l'auteur. Les textes de l'écriture imprimés en tête de plusieurs discours ont été pour la plupart, et notamment les derniers, désignés par lui et lus sur sa demande avant qu'il prît la parole. On a donné à la suite de quelques discours des prières ou fragments de prières dont il les avait accompagnés. Le portrait, placé en tête de ce volume, est dessiné par un habile artiste d'après un daguerrotype pris au mois de janvier 1856. Il sera apprécié de ceux qui ont vu et entendu M. Monod dans les réunions du dimanche. Ils le retrouveront tel qu'ils l'ont vu prononçant les allocutions. Ce volume servira, nous l'espérons, à la gloire de Dieu et à l'avancement de son règne, selon cette belle parole de l'Épître aux Hébreux, « Tout mort qu'il est, il parle encore. » Que le lecteur, tout en conservant le souvenir de l'homme à qui nous devons ce beau témoignage rendu à la puissance de la foi, regarde à celui de qui procède toute grâce excellente et tout don parfait. « N'oublions pas, disait M. Monod le dimanche de mars au soir, d'arroser de nos prières ce que nous plantons ainsi au nom du Seigneur et demandons-lui de ne pas permettre qu'une curiosité stérile, ni même qu'une affectation purement humaine, prenne la place que doit occuper ici, dans celui qui parle et dans ceux qui écoutent, le pur désir de glorifier Dieu. C'est dans cet esprit que nous offrons ce volume au peuple de Dieu. Qu'il l'accueille aussi dans cet esprit, saintement jaloux de rapporter toute gloire à celui qui donne tout bien. Mais qu'il nous soit permis aussi, en livrant ce volume au public, d'y faire admirer la bonté de ce Dieu fidèle. Voici bientôt un an que l'Église commença de s'alarmer pour la vie de M. Monod et de redemander à Dieu ce serviteur qu'il semblait marquer déjà de son sceau pour la vie éternelle. Après 8 mois de prière, M. Monod lui était retiré, et 8 mois de quelle souffrance! Mais ce n'est pas en vain qu'il s'était senti, comme il l'a dit lui-même, porté sur les prières du peuple de Dieu. En lui retirant et sa santé et sa prédication et sa vie, Dieu se réservait d'exaucer autrement ses prières et celles de ses frères pour lui. Il voulait le mettre en exemple à tout son peuple. À la prédication de M. Monod, il manquait le sceau de cette dernière et cruelle maladie. Ceux qui l'entendirent au jour de sa force et qui le virent au jour de sa faiblesse diront si le prédicateur, dans toute la vigueur du corps et toute la liberté de l'esprit, a parlé plus efficacement, plus utilement à leur cœur que le chrétien malade et mourant. Et dans cette maladie, où Dieu faisait éclater ainsi en lui la puissance de la foi, il lui permettait encore de parler en son nom chaque dimanche. Il le lui a permis jusqu'au dernier jour, et il a fait sortir de cette longue amertume ce petit livre, humble mais éloquent témoignage rendu à l'Évangile, unique peut-être dans l'histoire de l'Église, où l'on entendra redite, semaine après semaine, par un homme qui attendait la mort, sans oser la souhaiter, et redite avec une fermeté, une patience, une paix, une joie toujours croissante, cette même doctrine de l'Évangile, telle qu'il l'avait connue, prêchée, vécue pendant les 25 années de son ministère. Gloire à Dieu. Dans un sermon prêché le jour de Noël 1854, sur ce texte, « Pour toi, une épée transpercera ton âme », M. Monod, déjà malade depuis le commencement du printemps, prononçait quelques paroles que nous aimons à placer ici pour faire voir comment Dieu a su vérifier en lui ce qu'il lui mettait alors sur les lèvres. Il venait de montrer que la vie crucifiée est la véritable vie du chrétien et du ministre de la parole de Dieu en particulier, et termina cette partie de son discours par ces mots. Que si parmi ces croix qu'il vous donne à porter, il en est quelqu'une qui vous semble, je ne dis pas plus lourde à porter que les autres, mais plus compromettante pour votre ministère, mais capable de ruiner à jamais toutes les espérances de votre mission sainte, si la tentation extérieure s'unit à la tentation intérieure, si tout semble frappé, corps, esprit, cœur, si tout semble enfin perdu sans retour, eh bien, acceptez cette croix-là, dirais-je, ou cet assemblage de tant de croix, dans un sentiment particulier de soumission, d'espérance et de gratitude, comme une infirmité dans laquelle le Seigneur va vous faire trouver une mission toute nouvelle. Saluez-la comme le point de départ d'un ministère d'amertume et de faiblesse que Dieu a réservé pour la fin comme le meilleur et qu'il veut faire plus abonder en fruits de vie que ne fit jamais votre ministère de force et de joie dans les jours passés.